Pour la partie narratologie contemporaine, on s'est partagé en deux thématiques avec John, le cognitivisme et l'imaginaire. Donc là, aujourd'hui, on va faire une séance où il y aura un petit peu de chaque. Moi, je vais faire une communication sur genre et sous-genre dans les littératures de l'imaginaire. Et Jack nous parlera plutôt de la branche cognitive.
Cognitive et monde possible, voilà.
Les mondes possibles. Bon, eh ben, on y va. Alors donc, genre et sous-genre dans les littératures de l'imaginaire. Alors le champ des littératures de l'imaginaire s'est constitué progressivement à partir de la fin du XVIIe siècle, à la suite de nombreuses fluctuations. Il se présente actuellement comme la réunion de trois genres majeurs, dont chacun possède une interface avec les deux autres, et se répartit lui-même en un certain nombre de sous-genres. Par ordre d'apparition historique, les trois genres principaux sont le merveilleux, le fantastique et la science-fiction. Tous trois obéissent à une même contrainte qui relève moins du discursif que du thématique. L'univers fictionnel qu'ils décrivent ne prétend pas constituer une mimésis du monde réel, présent ou passé, mais s'en démarque par l'introduction d'un ou plusieurs éléments outrepassant les limites qu'on lui connaît. Ceci étant, chacun d'eux gère cette intrusion d'une manière qui lui est propre. Je parle assez fort, on m'entend au fond? C'est bon. Le merveilleux fait intervenir des éléments surnaturels d'origine magique ou divine, acceptés comme tels et ne nécessitant pas de justification rationnelle. Le fantastique, issu des zones d'ombre du christianisme et nourri par l'angoisse de l'au-delà, joue sur l'incertitude, la réalité des faits étant sans cesse remise en question. Il peut être dû à un rêve, à une drogue, à une hallucination, à un trucage, etc. La science-fiction, enfin, fournit une explication logique aux éléments extérieurs à notre réalité ou incompatibles avec elle. Société du futur, progrès de la technologie, défaut des lois scientifiques actuelles, etc. Quant à leurs sous-genres, on va les passer en revue. Moins pour en établir un catalogue qui serait contestable à bien des égards, que pour examiner d'une part la manière dont ils se sont constitués, d'autre part leurs limites et leurs zones de recouvrement. Alors on commence par le merveilleux, historiquement, hein. Donc les racines du merveilleux, tel qu'il s'est épanoui au XVIIIe siècle, se trouvent dans trois domaines principaux. Les mythes anciens, cristallisé par des textes comme l'Odyssée de Homère ou les Métamorphoses d'Ovide, qui font intervenir la figure du magicien et le thème de la métamorphose, tous deux constitutifs du genre. Les contes et légendes populaires, nourris d'un mélange de paganisme et de christianisme, voire de superstition, transmis au fil des siècles par la tradition orale, tel conteur ou telle région, lui ajoutant ses variantes propres. Et enfin, le roman courtois du Moyen Âge. Le cycle breton du XIIe siècle, par exemple, qui regroupe divers poèmes et romans de Chrétien de Troyes, Marie de France, Thomas et Béroul, centré autour de la légende de la table ronde et de l'histoire de Tristan et Iseut, il accorde un rôle spécial aux enchanteurs et aux fées. Vient ensuite Rabelais, qui, dans Gargantua et Pantagruel, qui ont été écrits entre 1532 et 1564, pratique un mélange de mythes grecs et chrétiens, de satires de l'époque et d'inventions symboliques. Là encore, le surnaturel tient une place importante. Pourtant, son œuvre, peut-être parce qu'elle a quelque chose de définitif, ne fait guère école. Et le merveilleux disparaît jusqu'à la fin du XVIIe siècle, où il effectue un retour en force avec la vogue du conte de fées. Donc, les contes de Mamerlois de Perrault, 1697, inaugure cette vogue. Issus d'une tradition folklorique plus ou moins complexe, ils dissimulent sous leur visage officiel une distraction pour la cour, une réflexion sur la structure familiale et ses avatars. L'introduction d'une surnature, les fées et les animaux qui parlent, permet de rendre cette réflexion attrayante grâce à une stylisation faussement enfantine. Leur structure s'inscrit d'autant mieux dans le modèle de Prop que leur brièveté, quelques lignes à quelques pages, accentue leur caractère de fable. À tel point que certains reparaîtront quelques années plus tard, entre 1812 et 1822, sous la plume des frères Grimm, sans que les variations qu'ils introduisent remettent en question cette structure. Tout autre sont les deux recueils de Madame d'Aulnoy, Les illustres faits, 1698, donc un an après, et les faits à la mode également, 1698, dont les contes beaucoup plus développés, font entre 30 et 60 pages, font la part belle à un élément descriptif volontiers luxuriant. Si l'on peut aussi leur appliquer le modèle de Prop, ils comportent des éléments autobiographiques qui leur confèrent une tonalité personnelle. On sait qu'à l'âge de 16 ans, la jeune Marie-Catherine, qui menait une vie plutôt libre avec sa mère, à 16 ans, vous vous rendez compte, épousa le baron d'Aulnoy, plus âgé qu'elle et fort laid. L'ayant évidemment pris en haine, elle tenta de le discréditer auprès du roi, ce qui n'aboutit qu'à la faire emprisonner à la conciergerie. De cette expérience naîtront plus tard deux thèmes récurrents, quasi obsessionnels. La princesse prisonnière dans une tour, on trouve ça dans L'Oiseau bleu, Le Dauphin, La princesse printanière, et l'époux monstrueux. Alors l'époux monstrueux peut être soit évincé au profit d'un prince charmant, la Châte-Brance, le prince lutin, soit devenir lui-même ce prince charmant, Serpentin vert ou le prince marcassin, ou au contraire, parfois il triomphe. Exemple, le nain jaune, qui est un des rares exemples, très rare même, de conte de fées à fin tragique. Le ton des dialogues, surtout des dialogues amoureux, situe Madame d'Aulnoy dans la lignée du roman courtois, dans le voisinage de Madame de Lafayette et parmi les prédécesseurs de Marivaux. Par exemple, le Rameau d'or ou l'Oranger et l'Abeille. Cela dit, la vogue du conte de fées s'éteint en quelques années. Elle renaît brièvement quand Madame le Prince de Beaumont publie Le Magasin des enfants en 1757, qui renoue avec la concision de Perrault. Mais de ce recueil, qui exprime surtout le souci d'édifier la jeunesse, ne survit guère aujourd'hui que La Belle et la Bête. Vous aurez compris que je préfère Madame d'Aulnoy à Madame le Prince de Beaumont. Le déclin du conte de fées au début du XVIIIe siècle coïncide avec l'apparition d'un genre nouveau, le conte oriental, dont la vogue résulte d'une traduction par Antoine Galland d'une série de contes arabes, Les Mille et une Nuits, publiée en 1704. L'intitulé Conte oriental conserve le thème conte et le modèle de Prop s'y applique sans problème. En revanche, s'il n'implique plus la présence de fées, ce qui n'en bannit pas pour autant l'élément merveilleux, il impose la présence d'un cadre exotique. À partir du modèle authentique des Mille et une Nuits vont donc fleurir de faux contes persans, comme Les Mille et un Jours de François Pétis de la Croix, ou arabes comme Mille et une Fadaises de Jacques Cazotte, chinois, péruviens, etc. Le fait de déplacer le cadre vers un pays exotique plus ou moins fictif instaure un décalage avec la société contemporaine, décalage qui permet aux auteurs d'aborder, protégés par un masque, certains sujets délicats, ce qui va avoir deux conséquences sur l'évolution du genre. D'une part, un glissement vers l'érotisme, avec ce qu'on appellera le conte libertin. Alors, le principe de la multiplication de récits dans le récit sera repris tour à tour par Crébillon dans Le Sofa et Diderot dans Les Bijoux indiscrets, où un objet lié à l'intimité raconte les scènes dont il a été témoin. La deuxième conséquence est la dimension critique déjà présente chez Diderot. À travers le déguisement exotique, l'auteur dénonce les défaillances politiques et sociales de son propre pays. On l'observe dès 1721, avec les lettres persanes de Montesquieu, qui s'éloigne à la fois du conte et du merveilleux pour s'attaquer au travers de la cour, des institutions et de la société en général. En 1748, Voltaire opère la synthèse entre conte et critique dans Zadig, où, à travers les aventures fantasmagoriques du héros, il égratigne la monarchie, l'église, les femmes, etc. Ce double principe du regard de l'étranger sur notre monde et du regard d'un voyageur de chez nous sur un pays différent sera repris au XXe siècle dans de nombreux nouveaux romans de science-fiction par le biais des voyages interplanétaires, mais dans une perspective critique tout à fait comparable. Au XIXe siècle, le merveilleux s'efface devant le fantastique pour revenir au XXe dans les pays anglo-saxons sous une forme différente, l'héroïque fantasy. L'hégémonie du monde anglo-saxon va s'affirmer avec une telle force d'ailleurs qu'actuellement le terme fantasy tend à supplanter celui de merveilleux, ce qui ne va pas sans occasionner certains malentendus. Alors, l'héroïque fantasy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle met l'accent sur le côté épique et privilégie les univers de type médiéval. Elle renoue avec la chanson de geste et va rapidement se caractériser, à la différence du conte, par la dimension imposante des textes auxquels elle donne lieu. Une de ses premières occurrences est la saga de Conan de Robert Howard, formée de 18 nouvelles situées avant la préhistoire. S'il ne s'agit pas encore de roman, la notion de cycle est déjà présente et se confirmera par la suite. De même que celle de super-héros, caractéristique du genre. Cela dit, sur le plan narratif, on reste dans les codes du roman d'aventure, c'est-à-dire une application à grande échelle des lois de propre, les personnages assurant les fonctions décrites par l'analyse structurale. Héros, faux-héros, auxiliaires, antagonistes, princesses, fausses princesses, mandateurs, mandataires, etc. Le genre se développe dans la seconde moitié du XXe siècle avec les cycles de Jacques Vance comme. Il y a un mot qui a sauté. Là, il y a un mot qui a sauté. C'est paru en 60, 68 et 70. Alors, vous devez l'avoir, je ne sais pas ce que c'est. La geste des princes démons. Tchaï, voilà, c'est Tchaï, voilà. Ou Lyonnaise. Et la geste des princes démons qui comprend cinq romans. Cette geste des princes démons montre à la fois les limites et les plasticités du genre, puisque son univers se situe entre celui de l'héroïque fantasy, donc un passé où règne la magie, et celui du space opéra, un futur doté d'une technologie avancée. Mais le récit obéit à des lois identiques. Seul change le décor et la technologie, les règles narratives, elles, ne varient pas. On suivra encore le cycle des épées de Leiber, la saga d'Elric le nécromancien de Moorcock, l'un et l'autre constitués de sept romans. Alors, Leiber est l'inventeur du terme sword and sorcery, qui veut dire épée et sorcellerie, qu'on substitue parfois à celui d'heroic fantasy, et qui place sur le même plan les deux composantes du genre, le combat et la magie. Moorcock, lui, introduit des notions un peu différentes. La notion d'univers parallèle, par exemple, qui est issue de la science-fiction, ainsi qu'une forme de spiritualité plus développée que la simple féerie blanche ou noire. Je passe maintenant à la high fantasy. Alors, ce terme de high fantasy comporte une connotation appréciative dans la mesure où il semble tirer la fantasy vers une littérature plus savante. Alors, un des pionniers du genre, évidemment, c'est Tolkien, avec Bilbo le Hobbit et surtout le Seigneur des Anneaux, où il procède à la création d'un monde féerique, complexe et cohérent, auquel il donne une double dimension poétique et linguistique. Ses héros sont des anti-héros, courageux mais vulnérables. Cela dit, encore une fois, les ressorts dramatiques restent conformes aux règles morphologiques du conte. Dans une perspective un peu différente, on peut citer Ursula Le Guin, qui œuvre en général dans le champ de la science-fiction, mais utilise les codes de la high fantasy dans le cycle Terre-Mère, qui comprend quatre romans. D'ailleurs, ce que j'ai cru comprendre, il y en a un cinquième qui vient de sortir. Elle y développe, comme dans le reste de son œuvre, une réflexion à la fois sociologique et écologique, avec une prédilection marquée pour le thème de la différence. Ceci étant, ces auteurs vont entraîner dans leur sillage une foule de suivistes qui vont ramener la high fantasy à un statut moins sophistiqué, celui d'une production commerciale à haut débit, sur lequel je ne ferai pas de commentaire. Alors, autre type de fantasy, la fantasy urbaine. Elle s'oppose aux deux précédentes par son cadre non seulement urbain, mais également contemporain au sens large du terme. Elle fait donc coexister la magie et les différentes technologies développées depuis le XIXe siècle. Ce parti pris lui permet d'aborder les problèmes propres à notre époque, tout en conservant la dimension merveilleuse, ce que les anglo-saxons désignent par le terme de sense of wonder. Dans cette perspective, on peut citer par exemple Neverwhere de Neil Gaiman, 96, où Londres possède un envers, la ville d'en bas, cité souterraine, dangereuse, que le commun des mortels ne peut voir et dans laquelle vivent des créatures fantasmagoriques. Les aventures qui s'y déroulent suivent les schémas narratifs classiques. Autre exemple, Perdido Street Station, saga en deux volumes de China Mieville, paru en 2003, située dans une mégalopole au caractère organique, peuplée d'êtres fabuleux comme un homme-oiseau dont on a renié les ailes et des tas de bêtes bizarroïdes, Autour de la station de métro éponyme se développent des aventures à la fois dramatiques et burlesques qui lui confèrent le caractère épique propre à la fantasy. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les formes de fantasy qui existent parce que les amateurs les ont multipliées avec un plaisir véritablement pervers, en se basant sur des critères tels que l'époque, le climat, la technologie, etc. Alors, on trouve ainsi la fantasy mythique, qui est la plus proche du conte de fées. La dark fantasy, qui est pessimiste, qui voit le triomphe du mal sur le bien. Tac. La light fantasy, ou fantasy burlesque, qui joue la carte de la parodie. La science fantasy, qui introduit des éléments science-fictionnels dans l'univers de la fantasy. Et enfin, la fantasy animalière, dont les héros sont des animaux anthropomorphes. Alors, je vais terminer avec le merveilleux par une forme tout à fait différente, qui est le réalisme magique. Et là, on n'a pas fini de discuter pour savoir s'il est vraiment à sa place à cet endroit. Le réalisme magique se base donc sur un concept foncièrement différent de la fantasy, et d'ailleurs n'est pas issu du monde anglo-saxon. La dimension aventure épique, en particulier, n'y figure pas. Au départ, il désigne un courant littéraire apparu en Amérique latine, encore qu'une bonne partie des œuvres qu'on y range ne relèvent nullement du merveilleux, mais du fantastique. D'où le problème. Que faut-il entendre alors par réalisme magique? En se tenant strictement au contenu de ce syntagme, on arrive à des univers fictionnels suivant les lois du réalisme, à ceci près qu'il y intervient un ou plusieurs éléments d'ordre merveilleux. Dans cette optique, si on envisage le corpus sud-américain, on retiendra moins les textes de Borges ou de Cortázar, sur lesquels je reviendrai plus tard, que ceux de Gabriel García Márquez, par exemple, « Cent ans de solitude » ou « L'automne du patriarche », dans lequel les événements de type surnaturel se dégagent de façon quasiment logique des hyperboles que l'auteur pratique constamment. Les structures narratives, alors, ne doivent absolument plus rien à celles du conte. On a plutôt affaire à des chroniques de type historique, où la réalité, à force d'excès, franchit ses propres limites. En France, de nombreux auteurs pratiquent ce genre sans qu'ils soient vraiment nommés en tant que tels. C'est le cas de Marcel Aimé dans Le Passe-Muraille, où plusieurs nouvelles sont basées sur l'introduction d'un principe surnaturel unique dans un univers par ailleurs réaliste. Boris Vian dans L'écume des jours multiplie les infractions à l'ordre des choses jusqu'à créer un univers à la fois proche du nôtre et fantasmagorique. De même, Raymond Queneau, dans Asie dans le métro, qui recrée un Paris déréalisé et poétique. Ou, dans une perspective différente, Salman Rushdie, dont Les enfants de minuit introduit dans le monde réel une forme d'onirisme qui, par sa démesure, rejoint celle de García Márquez. 20 minutes pour le merveilleux, ça va, je suis dans le temps. On passe au fantastique. Alors le fantastique, donc le déclin du merveilleux au XVIIIe siècle, a coïncidé avec l'apparition d'un genre nouveau, le fantastique. La première forme sur laquelle il s'est manifesté est le roman gothique, qu'on appelle également roman noir, terme qui a l'inconvénient d'introduire une confusion avec le polar. Je crois qu'on en reparlera dans 15 jours. Donc je m'en tiendrai au terme de roman gothique, dont l'intitulé met l'accent sur le cadre où se situe l'action. D'origine anglaise, le roman gothique se déroule dans un château médiéval, plus ou moins en ruine, comportant passages secrets, souterrains et salles de torture. Son intrigue fait intervenir, outre les personnages humains, nobles ou roturiers, des spectres et des démons issus du christianisme. L'ouvrage fondateur du genre, c'est le château d'Otrante d'Horace Walpole, 1764, donc fin du XVIIIe quand même. Bref roman de 130 pages, où l'on trouve tous les ingrédients qui feront fureur par la suite. Sombre château, trône usurpé, seigneur tyrannique, héritier légitime, spectre vengeur, querelle de famille, amant contrarié, etc. Il est suivi par Les mystères du Dolph d'Anne Radcliffe, 1794, donc 30 ans après quand même, qui développe le thème de la jeune fille errant la nuit dans les corridors d'un château hanté, mal protégée par la flamme de sa bougie des périls qui la guettent, et qui semble autant de métaphores de ces démons inconscients. Puis, par Le moine de Matthew Lewis, paru l'année suivante, ouvrage flamboyant, outrancier, où l'érotisme et la cruauté mènent un sabbat délirant autour de la possession d'un moine par le diable. Sa traduction par Artaud en 31, qui est une relecture profonde du texte par le poète, la réinscrit avec force dans le champ littéraire. Enfin, à la toute fin du 19e siècle, Bram Stoker donne au genre un nouveau souffle avec Dracula, paru en 97, qui impose définitivement la figure de vampire, déjà évoquée en 1872 par Joseph Sheridan Le Fanu dans Carmilla. J'en viens maintenant à la catégorie de fantastique qui a régné sur tout le 19e siècle, qui porte d'ailleurs pas de nom. Alors je l'ai baptisé, ce qui n'engage que moi, fantastique psychologique. Je ne sais pas si Jacques Guamard approuvera cette terminologie. Fantastique psychologique, je crois. Ou fantastique todorovien, on pourrait l'appeler comme ça, effectivement, parce que c'est sur lui que c'était essentiellement l'étude de Todorov, Introduction à la littérature fantastique, qui date de 70. Étude qui souligne en particulier l'importance du concept d'hésitation, qui est la véritable clé de voûte du fantastique. Les faits racontés ont-ils vraiment lieu, ou bien sont-ils le fruit d'un délire du narrateur et ou du personnage frappé, au singulier ou au pluriel, d'hallucination ou de folie? Cette hésitation appliquée en particulier à la question fondamentale de la mort et de l'au-delà sous-tend l'ensemble de ce fantastique psychologique, ou todorovien. Elle apparaît dans divers contes d'Hoffmann, comme Le Vase d'Or, paru en 1814, ou L'Homme au sable, paru en 1816, dont le héros, en proie à une exaltation proche de la folie, ne parvient plus à distinguer ses visions de la réalité, ses amis de ses ennemis, la femme réelle de la femme imaginaire. Liée à la mort, l'incertitude est à la base de La morte amoureuse de Théophile Gautier et revient dans plusieurs des contes d'Edgar Poe, avec le double thème de la prolongation de la vie post-mortem, dans Morella ou Ligeia, et de la femme enterrée vivante, dans Bérénice ou La chute de la maison Usher. Souvent, le principe de l'hésitation rejoint le questionnement de l'auteur sur son propre état mental. C'est le cas dans Aurélia de Nerval, 1855, et Le Horla de Maupassant, 87. Il reparaît plus distancié, mais à peine moins inquiétant, dans Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, paru en 91, où il est lié à la peur du vieillissement, et Le tour d'écrou de Henry James, où il joue à la fois sur l'hystérie féminine et sur le regard de l'enfance sur l'au-delà. Les thèmes développés par le fantastique psychologique étant tous liés à une forme d'angoisse, cet aspect va prédominer dans un nouveau sous-genre qui va se développer au XXe siècle, l'épouvante. Et à ce propos, on peut remarquer un glissement dans la terminologie utilisée pour le nommer. Pour reprendre une distinction établie par Jean-Marie Schaeffer dans Qu'est-ce qu'un genre littéraire, paru en 1989, les genres et sous-genres abordés jusqu'à présent ont tous été définis, soit par leur forme et leur contenu, exemple le conte de fées, soit par leur contenu seul, le réalisme magique. Dans le cadre présent, l'épouvante, c'est le cadre communicationnel qui est pris en compte. Autrement dit, l'effet que l'auteur compte produire sur le lecteur, un sentiment d'épouvante. Donc on ne se réfère ni à la forme, ni aux moyens par lesquels on va produire cette épouvante. Alors si ce propos est clair, il va pourtant à l'usage introduire une ambiguïté. Les notions de fantastique et d'épouvante devenant indissociables dans l'esprit d'une partie du public qui n'arrive plus à concevoir un fantastique ne faisant pas appel au ressort de l'épouvante. Quoi qu'il en soit, nombre d'ouvrages vont paraître dans cette catégorie avec toutefois un trait particulier. Et là, on assiste à une dérive caractéristique. Contrairement aux fantastiques psychologiques, ils ne sont pas rattachés à la littérature générale ni à la littérature savante, mais plutôt à une paralittérature à connotation populaire. C'est le cas de romans comme L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc, La poupée sanglante et la machine à assassiner de Gaston Leroux, ou encore les recueils de nouvelles de Jean Rey, Le Grand Nocturne et Les Cercles de l'Épouvante. Tout est déjà même indiqué dans le titre. Étape suivante de la dérive, on arrive à l'horreur ou au gore. La logique qui a mené à l'épouvante, donc, se prolonge avec la création d'un autre sous-genre, l'horreur, qui est une amplification du précédent. Là encore, l'intitulé met l'accent sur le cadre communicationnel, le sentiment d'horreur étant considéré comme plus fort, mais aussi plus physique que celui d'épouvante. Les deux maîtres du genre sont actuellement Stephen King, avec des romans comme Carrie, Shining ou Cimetière, et Clive Barker, avec le recueil Les Livres de Sang ou le roman Le Jeu de la Damnation. On peut citer également Douglas Clegg pour Neverland et en France, Claude Aiken pour Enfer Clos, roman d'une assez bonne tenue littéraire, mais assez insoutenable. Enfin, l'enquête qu'on fait sur ses lecteurs, c'est à quel chapitre tu t'es arrêté. Moi, je me suis arrêté au chapitre 7. Il faut signaler également que, sous l'influence anglo-saxonne, le terme « horreur » a peu à peu cédé le pas au terme « gore », qui veut dire « sang versé », et souligne donc à nouveau le contenu des ouvrages. Donc c'est par des scènes sanglantes que l'effet d'horreur cherche à être obtenu. La dimension fantastique, du coup, se voit reléguée au second plan. Et il reste dans le fantastique une dernière catégorie, parfaitement délicate à cerner, celle de l'insolite ou étrange. Alors je ne sais pas s'il y a une distinction entre les deux, là je ne vais pas en faire, mais il est possible qu'il y en ait une. Je les mets dans les mêmes sacs. Elle est davantage définie par son contenu, un type de réalisme dans lequel un élément échappe à la norme, que par son cadre communicationnel, crée chez le lecteur un sentiment d'étrangeté. Qu'elle fasse ou non appel au surnaturel n'est pas le vrai problème. La question est plutôt, par quels moyens propres au discours fictionnel, les auteurs créent-ils un décalage par rapport à la réalité? Les réponses sont variées. Dans le procès de 1925, Kafka multiplie les situations réalistes où les personnages se comportent selon une logique presque identique à celle de la vie réelle. L'accumulation de ces presque, toujours orientées dans le même sens, débouchant sur une vision particulière du monde. De même, dans le désert des Tartares de 1940, c'est par l'attente d'un événement qui ne se produit jamais, que Dino Buzzati crée l'impression d'étrangeté. Et j'en viens maintenant à Borges et à Cortazar, que j'ai laissé de côté tout à l'heure, dans le réalisme magique, et que je mets plutôt dans l'insolite et l'étrange, mais ça peut se discuter. Dans Fiction et dans l'Aleph, la démarche borgésienne consiste principalement à poser un paradoxe, et à lui suivre jusqu'au bout, tout en lui donnant le maximum de justification. Cortazar, de son côté, dans Les armes secrètes et façon de perdre, recourt avant tout à des techniques discursives, soit l'usage de la métalepse, soit le jeu des points de vue, soit encore des bizarreries syntaxiques, comme dans la nouvelle « Vous vous êtes allongé, à tes côtés ». Tout le récit étant écrit sous ce jeu du « vous » et du « tu ». C'est un récit où il raconte l'histoire d'une mère et de son fils à l'adolescence du fils. Quand il s'adresse à la mère, il dit « vous ». Quand il s'adresse au fils, il dit « tu ». Et tout le, même à l'intérieur d'une phrase. Donc, toute la nouvelle. Et ça produit un effet d'étrangeté qui est justement l'image de l'ambiguïté de cette relation entre mère et fils au moment où le fils cesse d'être un enfant pour devenir un homme. Mais à mon avis, dans la mesure où le résultat est plus proche du fantastique que du merveilleux, ces œuvres relèvent davantage de la présente catégorie, donc l'insolite ou l'étrange, que du réalisme magique. Je signalerai encore un recueil, 20 pas dans l'insolite, composé de 21 nouvelles, évidemment, où les auteurs, John Dixon Card, Edward Orr, Hélène McCloy, Joe Gorse, Wallon Arcejac, René Rouven, etc., donnent à des événements bizarres, incongrus, fantastiques, une explication rationnelle, accompagnée de spéculations sur le passé récent et de perspectives sur l'avenir, d'autant plus audacieuses qu'elles affichent les dehors de la vraisemblance. Et voilà pour le fantastique. J'en viens maintenant à la science-fiction. Alors, le terme de science-fiction a été inventé aux États-Unis en 1929 par Hugo Gernsback, directeur de la revue Amazing. Traditionnellement, on fait remonter le genre aux ouvrages de Cyrano de Bergerac, Histoire comique des États et Empire de la Lune, et Histoire comique des États et Empire du Soleil, qui datent de 1657 et 1662, où l'on trouve un mélange de satire sociale et philosophique, d'inventions merveilleuses comme les fioles de rosée pour aller dans la Lune, de références à la culture grecque et à la Bible, de comparaisons entre différents systèmes scientifiques, etc. Au XIXe siècle, la science-fiction émerge dans le champ anglo-saxon à travers deux romans, en général rattachés au fantastique, bien que leur logique soit déjà clairement science-fictionnelle. C'est d'une part Frankenstein de Mary Shelley, qui date de 1817, donc quand même très tôt dans le 19e, et Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, qui, beaucoup plus tardif, date de 1886. En France, Jules Verne publie en 1865 De la Terre à la Lune, qui reprend le problème posé par Cyrano de Bergerac et définit sans ambiguïté le genre qu'il est en train de créer. Suivront les romans de Wells, La machine à explorer le temps, L'île du docteur Moreau, L'homme invisible, La guerre des mondes, qui achève d'en poser les bases. Ceci étant, il faut souligner le fait que, de très bonne heure, apparaît une confusion tenace entre science-fiction et anticipation, confusion qui réduit la science-fiction à une exploration de l'avenir, alors qu'elle possède de multiples dimensions, le futur n'étant que l'une d'entre elles. Le premier sous-genre de la science-fiction est le space opera, que j'appellerais space opéra, on va se le faire à la française, hein, ce sera plus simple. Roman d'aventure situé dans l'espace avec astronefs et extraterrestres, gentils ou méchants. Le terme space opera a été forgé en 1941 par un auteur américain, Wilson Tucker, qui lui donnait un sens nettement péjoratif, par analogie avec le soap opéra, hein, opéra de lessive. Ce qui n'empêche pas le grand public de lui assimiler, encore une fois de façon hâtive, l'ensemble de la science-fiction. Donc pour le grand public, science-fiction, c'est des petits hommes verts. Le fait que les premiers ouvrages de ce genre, Le cycle de Mars et le cycle de Vénus d'Edgar Rice Burroughs, se déroulent dans des univers proches de la fantasy, n'est pas un hasard. Au-delà des différences d'époque et de technologie, le space opéra et l'heroic fantasy obéissent aux mêmes règles narratives. Encore une fois, celle du roman d'aventure, dont les personnages déclinent les fonctions grémasiennes, les ressorts dramatiques des uns et des autres remontant en fait aux épopées ancestrales. Hein. Chanson de geste. On retrouve ces caractères dans les ouvrages qui suivront, comme la saga de la Légion d'espace de Williamson ou les aventures de John Gordon de Hamilton. Le space opéra atteint son apogée, mais aussi une limite assez regrettable, avec les romans de Robert Heinlein, Citoyen de la galaxie et Étoile garde à vous, dont l'idéologie belliciste et réactionnaire, revendiquée pendant la guerre du Vietnam, a été fort critiquée par la suite. Il en va différemment, avec des cycles tels que Le Nona de Van Vogt, Fondation d'Asimov ou Dune de Frank Herbert, dont la construction, l'invention et l'idéologie témoignent d'une pensée beaucoup plus élaborée qui a contribué à donner au genre ses lettres de noblesse. Dune en particulier mérite une mention en raison de la réflexion écologique qu'il sous-tend. Et réflexion qui était assez novatrice pour l'époque, puisqu'il date de 1965. Signale enfin qu'il existe une variante du space opéra, le planète opéra, centrée non sur l'espace et les voyages qui s'y déroulent, mais sur une planète unique, prise comme objet d'étude sous ses différents aspects géographiques, zoologiques, politiques, sociologiques, und so weiter. Les aspects impérialistes et guerriers du space opéra, qui ont pu donner de la science-fiction l'image d'un genre réactionnaire, sont magistralement démentis par un autre sous-genre, la politique fiction, laquelle s'applique dès ses débuts à dénoncer les conséquences à court ou long terme des choix politiques et sociaux contemporains. On en trouve l'illustration dans les deux monuments constitutifs du genre que sont Le meilleur des mondes de Huxley et 1984 de Orwell, qui stigmatisent tous deux les dangers de l'uniformisation et du totalitarisme. Par la suite, d'autres aspects des dérives socioculturelles, sociopolitiques actuelles sont à leur tour passés au crible, en particulier en Europe. En Angleterre, par Anthony Burgess dans Orange Mécanique, ou John Brunner dans Tous à Zanzibar et L'orbite déchiquetée. En France, par Philippe Curval dans Le cycle de l'Europe après la pluie. Ces ouvrages, on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, qui s'attaquent au péril atomique, à la déshumanisation, à la pollution, aux multinationales, au racisme, etc. Par sa nature prospective, la politique fiction peut apparaître comme une forme d'anticipation. Cela dit, à l'inverse de l'anticipation du début du siècle, elle ne vise pas à chanter les louanges du progrès technique, mais à mettre le lecteur en garde contre les périls engendrés par les idéologies en place. Alors maintenant, vont s'enchaîner un certain nombre de sous-genres qui apparaissent tous en prolongement et ou en réaction au précédent. Alors ça commence avec l'Uchronie, qui se situe à l'opposé de cette littérature prospective, puisque de façon rétrospective, elle prend l'histoire pour objet de détournement, l'histoire avec un grand H. Ce nom d'Uchronie est forgé effectivement, évidemment par analogie avec l'utopie, et le genre crée des univers parallèles basés sur un postulat du type « et si tel événement historique d'une importance capitale et connu de tout le monde n'avait pas eu lieu ?» D'où une série de romans dont chacun explore les conséquences d'une hypothèse de ce genre. « Autant en emporte le temps » de Ward Moore, « et si le Sud avait gagné la guerre de sécession ?»« Le maître du Haut-Château » de Philippe Dick, « et si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale ?» qui est devenu par la suite un cliché du genre. Pavane de Keith Roberts, et si l'Angleterre était demeurée catholique. Avec l'Uchronie, on a donc affaire à une variante du roman historique, basée non sur la recherche de la vérité, mais sur le développement logique d'un postulat dont tout le monde, auteur et lecteur, sait qu'il est faux. L'intérêt de cette démarche, c'est bien sûr de remettre en perspective la réalité que nous connaissons et que nous considérons trop facilement comme allant de soi. Par ailleurs, l'introduction des sciences humaines, la sociologie, la psychologie, la linguistique dans la science-fiction a débouché sur l'apparition dans les années 60 d'un nouveau sous-genre basé sur le développement d'une idée de type spéculatif. On a donc appelé ce genre « speculative fiction ». Son rayonnement, c'était plutôt une littérature savante, a conduit pendant un temps à dire que la science-fiction était une littérature d'idées. Au début, on a considéré ça comme valorisant, après, on a considéré ça comme réducteur. Les ouvrages qui en résultent relèvent donc d'une forme de littérature plus savante que le space opera de base. Oui, parce qu'on est entre nous, on peut dire space opera, hein, pas space opera. L'accent étant mis non sur l'aventure au sens premier du terme, mais sur l'évolution psychosociologique. Des romans de Philippe K. Dick comme Le temps désarticulé, Ubique, Substance mort, qui développe sous diverses formes le thème de la réalité truquée, entre dans cette catégorie. De même, la série des quatre apocalypses de Ballard, où sont explorés les modes de destruction de notre monde par les quatre éléments, l'eau dans le monde englouti, l'air dans le vent de nulle part, le feu dans sécheresse, et la terre, en l'occurrence la cristallisation de toute vie, dans la forêt de cristal. Tous les grands auteurs des années 60-70 ont œuvré dans ce domaine. Je pense que c'est là, à cette période-là, que sont parus vraiment les grands chefs-d'œuvre de la science-fiction. Problème de l'ambivalence sexuelle est posé par Ursula Le Guin dans La main gauche de la nuit, en 69. Celui de la perte douloureuse d'une faculté, en l'occurrence la télépathie, par Silverberg dans L'oreille interne. Quant à la dimension linguistique, elle est développée par Ian Watson dans L'enchassement, à travers trois histoires convergentes qui posent la question du langage et de la communication. Pourtant, si la speculative fiction est la branche de la SF qui a fourni les ouvrages les plus remarquables, et donc les moins connus du grand public, va se produire une réaction à ce qu'une partie du milieu considère comme une dérive par rapport à la vocation de la science-fiction, explorer par la fiction le domaine des sciences exactes. D'où naissance d'un nouveau sous-genre qu'on va appeler « hard science », science dure. On en trouve des exemples chez Fred Hoyle, Le nuage noir, Larry Niven, L'anneau monde, et Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Rama. Les auteurs qui œuvrent dans ce domaine ont pour principe de ne développer que des théories plausibles, s'appuyant sur les découvertes les plus récentes en matière d'astronomie, de physique ou de mathématiques. Cela n'exclut pas l'imagination, mais impose qu'elle soit soutenue par une logique rigoureuse. D'où en particulier l'emploi d'un langage aussi proche que possible du discours scientifique. Langage que les amateurs considèrent comme une condition sine qua non et les réfractaires comme un motif de rejet. Je ne vous dirai pas à quelle catégorie j'appartiens. En appliquant cette perspective à la cybernétique, tout en la pervertissant joyeusement, est apparu dans les années 80 un nouveau courant qu'on a baptisé cyberpunk, par référence au rock punk. Pendant cette décennie, il s'est opposé à ceux qu'on appelait les humanistes et qui maintenaient le cap sur les sciences sociales. Le cyberpunk, en étudiant les liens plus ou moins fusionnels de l'homme et de l'ordinateur, a développé le concept de cyberspace, cyberespace. Ils permettent à l'action de se dérouler dans un univers doublement fictionnel, puisque décrit comme relevant d'une réalité en elle-même virtuelle. L'ouvrage fondateur de ce sous-genre est, quand je dis sous-genre, je précise que ce n'est pas péjoratif du tout, hein, c'est juste un genre à l'intérieur d'un genre, hein, ça n'a rien de péjoratif. L'ouvrage fondateur donc est Neuromancien de William Gibson, bientôt suivi par l'univers des mécas et des morphos de Bruce Sterling, et d'une anthologie collective qui regroupe tous les auteurs de ce mouvement, Mozart envers miroir, et qui a un peu fait l'effet, joué le rôle de manifeste. Le cyberpunk a duré ce que durent les roses, l'espace d'un ordinateur. Mais il a engendré un autre sous-genre, évidemment, qui lui continue d'exister, très bizarrement, alors qu'au début, c'était uniquement un canular. C'est le steampunk, qu'on pourrait traduire par « punk à vapeur », qui revisite le progrès technologique du XIXe siècle. Le terme est dû à l'américain Jeter, auteur du roman « Machines infernales » situé à l'époque victorienne. Autre ouvrage phare du steampunk, « Les voies d'Anubis » de Tim Powers, qui se situe à Londres en 1810. Et en France, on a notre auteur aussi, qui est Joan Elliott, avec « La lune seule le sait » paru en l'an 2000. Et je vais m'en tenir là pour la science-fiction. Et je vais arriver à la péroraison finale. Moi, je suis dans le temps, hein, finalement. Oui, oui, ça va. Donc, je vais conclure sur les relations intergenres, qui présentent deux aspects. D'une part, la généricité des genres. À travers ce qui précède, on peut observer un certain nombre de phénomènes récurrents dans la manière dont les genres et sous-genres naissent, vivent et meurent. Chacun d'eux, quelle que soit son origine, connaît une période de popularité, on peut souvent parler d'un effet de mode, que ce soit au XVIIe ou au XXe siècle, à l'issue de laquelle il décline, soit parce qu'il a plus ou moins épuisé ses possibilités, soit parce qu'il en apparaît un autre qu'il détrône. Cette usure des genres est un phénomène fréquent. L'hégémonie de la science-fiction au XXe siècle a fini par engendrer une certaine lassitude, accentué par le fait que la technologie réelle menaçait de rattraper celle de la fiction. Que personne ici ne dise que la réalité dépasse la fiction, sinon ça ira très mal. D'où l'explosion à la fin des années 90 de la fantasy, phénomène qui aurait été impensable 30 ans plus tôt, et qui donne encore lieu à différents débats. Par ailleurs, il existe une filiation certaine entre les genres et les sous-genres qui se succèdent. Cette filiation présente deux aspects, la prolongation et l'opposition. Bien qu'apparemment contradictoires, ils agissent souvent de concert, parfois sous l'action d'un déclencheur externe. Le paradigme développé par un sous-genre se résout alors en un nouveau paradigme qui comporte certains éléments du premier, tout en prenant le contre-pied de certains autres. Ainsi, le conte oriental apparaît comme le prolongement du conte de fées, mais avec un changement d'horizon radical, le catalyseur étant la traduction des mille et une nuits, et le principe féerique se voyant remplacé par le principe exotique. Si le passage du merveilleux au fantastique à la fin du XVIIIe siècle est lié à une évolution sociale et à une mise en perspective du christianisme, celui du fantastique à la science-fiction reflète le développement de l'industrie et de la technique. Il s'accomplit de ce fait tout au long du XIXe siècle, puisque le premier signe en est le Frankenstein de Marie Shelley, qui, dans un contexte métaphysico-religieux relevant du fantastique, fait intervenir la figure du savant et donne ainsi la parole à la science. La filiation entre sous-genres est encore plus marquée par le double aspect prolongation-opposition. La politique fiction apparaît en réaction aux aspects bellicistes et conservateurs du space opéra. L'uchronie se développe par contraste avec l'anticipation. La spéculative fiction réagit au côté fastidieux du discours scientifique en valorisant les sciences humaines. Cette option est à son tour contrée par la hard science, et celle-ci trouve un aboutissement narquois dans le cyberpunk, dont le contre-pied est aussitôt pris par le steampunk. Dans tout cela, il ne faut pas négliger l'impact à un moment donné de l'œuvre de tel ou tel auteur qui, consciemment ou non, va poser les fondements d'un nouveau genre ou d'un nouveau sous-genre. Le cyberpunk a été déclaré de façon délibérée comme un mouvement avec un manifeste en bonne et due forme. Le steampunk, au contraire, est né d'un gag qui s'est révélé à la longue infiniment plus fécond que n'imaginait son auteur. Le deuxième aspect sur lequel je vais conclure, c'est la porosité des frontières. Dans ce survol des genres et des sous-genres, on a été confronté à plusieurs reprises au problème de l'étanchéité. La distinction entre certains domaines n'est pas toujours très nette. La frontière séparant celui-ci de celui-là est parfois bien floue, et il paraît souvent arbitraire de ranger un ouvrage dans telle catégorie plutôt que dans telle autre. Ainsi, on a vu que l'heroic fantasy, rattaché au merveilleux, et le space opera, relevant de la science-fiction, présentaient des structures narratives identiques, à tel point que certains ouvrages appartenant à l'un pouvaient être transposés dans l'autre au prix d'un simple changement de décor et de costume. Et je ne parle pas du western, c'est kiff-kiff. Ce fait n'a pas échappé à certains auteurs qui en ont profité pour créer des univers empruntant des traits à l'un et à l'autre, ce qui rend le classement des ouvrages qui en résulte passablement problématique. On a rencontré un problème semblable, bien que n'étant pas lié à l'emploi de structures narratives standards, avec le réalisme magique, qui relève en principe du merveilleux, et l'insolite ou étrange, qui appartient au fantastique. La frontière entre les deux est particulièrement difficile à cerner. Borges, à lui seul, suffit à la mettre en échec. Mais d'autres que lui ont contribué à remettre en question la légitimité d'une telle frontière. Donc, après une longue période passée à cloisonner genre et sous-genre, la tendance actuelle est plutôt à les décloisonner. Les auteurs pratiquent de plus en plus ce que Francis Valéry a nommé l'esthétique de la fusion, mélangeant non seulement les catégories de l'imaginaire, mais y incorporant des éléments empruntés au polar et vice-versa. Cette problématique s'étendant jusqu'à la littérature générale, un chercheur contemporain que je ne nommerai pas a fini par poser le concept de transfiction pour donner un début d'identité aux nombreux ouvrages qui résistent à toute classification. Alors je vais vous faire passer son excellent ouvrage Bibliothèque de l'Entremonde, aux excellentes éditions Folio SF, vous incitant vivement à le consulter et à l'acheter. Je vous remercie.